d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Diriac et Abdourahmane Dia en direct de la capitale américaine, mardi 14 mai 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
Au Burkina Faso, 4 catholiques ont été tués lors d'une procession au lendemain de l'attaque d'une église ayant fait 6 morts. Les autorités se justifient sur la réponse à l'attaque contre l'église.
S'il n'y a pas eu une stratégie qui consistait à faire attention, on pouvait, en les attaquant là-bas, qu'ils fassent un massacre de près de 60 à 100 personnes.
Au Soudan, reprise des discussions sur la période de transition. Hier, des heures ont fait plusieurs morts.
Le président américain Donald Trump défend ses tarifs douaniers sur les produits chinois.
Les États-Unis mettent en cause l'Iran dans des actes de sabotage de navires pétroliers dans le Golfe.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Dans le nord du Burkina Faso, 4 catholiques ont été tués lundi lors d'une procession religieuse à Zimtenga au lendemain de l'attaque d'une église attribuée à des djihadistes ayant fait 6 morts, dont un prêtre. Nathalie Barge.
Lundi, à l'entrée du village de Singa, un groupe de terroristes a intercepté le cortège. Ils ont tué 4 fidèles et brûlé la statue de la Vierge Marie, a déclaré un responsable de la cathédrale de Ouagadougou. Selon l'agence nationale de presse burkinabé, les assaillants ont stoppé la procession, ont laissé partir les mineurs, exécuté 4 adultes et détruit la statue. Hier, dans l'archidiocèse de Waiguya, des individus ont attaqué des catholiques, faisant 4 victimes, a déclaré de son côté Paul Ouédraogo, président de la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger, lors d'une assemblée plénière réunissant une centaine d'évêques de 16 pays dans la capitale burkinabé. Dimanche, 6 personnes, dont un prêtre célébrant la messe, avaient été tuées lors d'une attaque attribuée à des djihadistes contre une église catholique à Dablo, dans la province du Saint-Matenga, également dans le nord du Burkina Faso.
Nouvelle attaque contre une église catholique, cette fois-ci au Niger. Un prêtre nigérien a été blessé par balle hier soir dans le village de Dolbel, d'après la mission catholique du Niger. L'attaque s'est produite dans la région de Tillaberi, zone de l'ouest proche du Burkina Faso et du Mali, en proie à des attaques djihadistes récurrentes.
Et nous restons au Niger. Nouveau bilan suite à l'attaque contre la prison de Koutoukalé hier. Les autorités comptent désormais un soldat tué dans cet établissement où sont détenus des djihadistes. Les forces nigériennes ont récupéré une roquette et plusieurs munitions que les assaillants ont abandonnées sur place, ainsi que 2 véhicules volés de Médecins sans frontières.
Le poste de Premier ministre n'existe plus au Sénégal. La loi constitutionnelle mettant fin à cette fonction a été promulguée ce mardi par le président Macky Sall, initiateur de cette réforme controversée. Censé fluidifier le fonctionnement de l'État, la suppression du poste de Premier ministre établit un nouvel équilibre entre les pouvoirs en renforçant le caractère présidentiel du régime sénégalais. L'opposition et des organisations de la société civile y voient une tentative de mainmise de Macky Sall sur les principaux rouages de l'État.
Et Bénin, la justice a ouvert une information judiciaire suite à l'enlèvement de 2 touristes français le 1er mai et à la mort de leur guide béninois dans le nord du pays. Le but est de déterminer les causes et conditions de l'incident, expliquent les autorités qui n'ont toujours pas officiellement reconnu les enlèvements et continuent de parler de disparition.
Guinée-Bissau, des centaines de partisans de la majorité parlementaire, dont le chef du principal parti, Domingos Simeus Pereira, manifestaient ce matin à Bissau pour exiger du président José Mario Vaz la nomination d'un gouvernement. Les législatives du 10 mars ont été remportées par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, de Domingos Simeus Pereira. Les manifestants exigent sa nomination immédiate et sans condition.
L'ambassade des États-Unis à Khartoum a fait porter aujourd'hui au Conseil militaire au pouvoir la responsabilité des violences qui ont fait 6 morts hier dans la capitale soudanaise. Et ce, alors que les généraux et les représentants de la contestation ont repris leurs discussions sur la période de transition. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
Les attaques contre les manifestants qui ont entraîné la mort d'au moins 6 Soudanais et fait une centaine de blessés résultent des tentatives du conseil militaire d'imposer sa volonté aux manifestants en tentant de lever les barrages routiers, a souligné l'ambassade américaine dans un communiqué au lendemain des négociations intersoudanaises. La chancellerie américaine a exhorté le conseil et l'alliance pour la liberté et le changement à ne pas laisser les violences peser sur les négociations sur la transition politique. De leur côté, les parties soudanaises ont fait état lundi de progrès dans les pourparlers. L'ordre du jour ce mardi porte sur la question délicate de la répartition entre militaires et civils au sein des trois institutions de transition, le Conseil souverain, le cabinet et l'Assemblée législative. Les deux parties vont également discuter de la période de transition que les manifestants veulent de 4 ans et les militaires de 2.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a de nouveau appelé le chef rebelle Riek Machar à rentrer à Juba. Il a promis d'œuvrer à la paix et vanté l'influence bénéfique du pape. Je lui ai complètement pardonné et tout ce que je lui demande, c'est de devenir un partenaire pour la paix, car il n'est plus mon adversaire, a déclaré le président Kiir à l'ouverture d'une nouvelle session du Parlement.
Les manifestations persistent en Algérie. De nombreux étudiants étaient rassemblés à Alger et dans d'autres villes universitaires pour réclamer le départ du pouvoir de ceux qu'ils qualifient de voleurs et des traîtres liés au régime du président déchu Abdelaziz Bouteflika.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Parlons de ces mystérieux actes de sabotage présumés contre 4 navires qui ont provoqué une montée des tensions dans le Golfe au moment où Donald Trump, le président américain, mettait une nouvelle fois en garde l'Iran contre tout passage à l'acte contre les intérêts américains. Les précisions de John Lyndon.
Tout a commencé dimanche lorsque 2 pétroliers saoudiens ont fait l'objet d'actes de sabotage dans la zone économique exclusive des Émirats arabes unis au large des côtes de l'Émirat de Fajoura alors qu'ils étaient sur le point de pénétrer dans le golfe d'Arabie selon les déclarations du ministre saoudien de l'énergie. Les Émirats n'ont pas identifié les auteurs mais parlent d'un événement grave. L'Arabie saoudite et les Émirats sont 2 proches alliés des États-Unis qui viennent de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient pour contrer l'Iran. Face à ces incidents, Washington a réagi. On va voir ce qui va se passer avec l'Iran, a lancé le président Trump. S'ils font quelque chose, ils vont souffrir énormément, a-t-il averti, sans plus de précision. Dans la soirée de lundi, le New York Times a rapporté que le ministre américain de la Défense par intérim, Patrick Shanahan, avait présenté la semaine dernière, lors d'une réunion avec des conseillers à la sécurité nationale de M. Trump, un plan selon lequel jusqu'à 120 000 hommes pourraient être envoyés au Moyen-Orient si l'Iran attaquait des forces américaines. Aucun lien n'a officiellement été fait entre ces incidents maritimes et les projets d'attaque imminentes imputés depuis la semaine dernière par Washington à Téhéran.
Les rebelles houthis du Yémen affirment que l'attaque de drones de ce mardi contre des installations pétrolières saoudiennes est une réponse aux crimes et aux blocus imposés par l'Arabie saoudite au Yémen. Notre peuple n'a pas d'autre choix que de se défendre de toutes ses forces, a déclaré sur Twitter Mohamed Abdesalam, porte-parole des rebelles houthis. L'Arabie saoudite aide militairement depuis 2015 le pouvoir au Yémen dans sa guerre contre les houthis.
Les États-Unis concluront un nouvel accord commercial avec la Chine lorsque le moment s'y prêtera, mais pas avant que Washington ne parvienne à réduire le déficit commercial avec Pékin, chiffré à 419 milliards de dollars l'année dernière, a fait savoir le président Trump. Les précisions de Lionel Gaïma.
La Chine nous achète nettement moins de biens que nous n'en achetons d'elle, a écrit le chef de l'exécutif américain dans un tweet, alors que le bras de fer commercial se poursuit avec la Chine. Un autre tweet du président des États-Unis assure le président chinois Xi Jinping d'une amitié et d'un respect illimité, mais souligne qu'il faut un bon accord pour les États-Unis ou alors cela n'aurait aucun sens. Les États-Unis doivent pouvoir regagner le terrain perdu au profit de la Chine, a insisté le président Donald Trump. Après 2 mois de négociations commerciales, les États-Unis et la Chine n'ont pas été à même de s'entendre sur un accord vendredi ici à Washington. Pour le président Trump, Washington est maintenant en meilleure position que par le passé. Il a défendu sa décision d'imposer des droits de douane sur 200 milliards de dollars de biens chinois, une décision à laquelle la Chine a répliqué en frappant de droits de douane 60 milliards d'exportations américaines.
L'application de messagerie cryptée WhatsApp a admis aujourd'hui avoir été infectée par un logiciel espion donnant accès à tout le contenu des smartphones visés. Une faille de sécurité a permis à des pirates informatiques d'insérer un logiciel malveillant sur des téléphones simplement en appelant les usagers de l'application utilisée par 1,5 milliard de personnes dans le monde. Dans un communiqué, WhatsApp a appelé les usagers à télécharger la dernière version de l'application. Il s'agit d'un déboire de plus pour sa mise en mer Facebook.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Au Mali, les cheminots ont repris hier le travail après presque 5 mois d'arrêt avec un mouvement de grève de la faim pour le paiement de nombreux mois d'arriérés de salaire qu'ils vont finalement recevoir. Près de 500 cheminots sont concernés. L'État malien s'est engagé à relancer les activités et à acheter de nouvelles locomotives. La voie ferrée Bamako-Dakar revêt une importance vitale pour les échanges de ce pays enclavé. Le Gabon a récupéré 200 conteneurs sur les 353 disparus contenant le Kévasingo, un bois rare protégé. Le procureur général Olivier Nzaou a déclaré que 71 des conteneurs manquants ont été retrouvés dans les locaux du port de la société Sotrasgab, immatriculée au Cameroun, et 129 sur la propriété de la société Owendo Container Terminal. 153 conteneurs sont toujours portés disparus. Déjà, 2 Chinois sont détenus dans le cadre de cette affaire. Les conteneurs de bois de Kévasingo, abattus illégalement et coûtant près de 250 millions de dollars, avaient été saisis au port d'Owendo de Libreville fin février, début mars. Terminons avec Microsoft qui investira 100 millions de dollars pour ouvrir un centre de développement technologique en Afrique avec des sites au Kenya et au Nigeria dans les 5 prochaines années. La société engagera plus de 100 ingénieurs locaux pour travailler dans les 2 pays afin de personnaliser ses applications pour le marché africain et d'en développer de nouvelles pour le continent et au-delà.
Et on enchaîne sur les sports avec Bagassi Koura.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Soupçon sur un match de foot algérien, 7 parieurs arrêtés en France.
Oui, des arrestations effectuées dans l'est de la France dans une enquête sur des soupçons de matchs arrangés en Algérie, impliquant notamment l'un des plus grands clubs du pays, l'ES Sétif. La rencontre qui comptait pour le championnat d'Algérie le 12 mai 2018 s'était soldée par une victoire 3-2 du DRB Tayenanet contre l'ES Sétif. Sur les 5 buts, 3 avaient été inscrits sur pénalty d'après des sources proches du dossier. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Nancy à cause de paris en ligne suspects enregistrés dans la région, notamment autour de Metz. L'AS Sétif est l'un des clubs les plus titrés d'Algérie avec 8 titres de championnat national et 2 ligues des champions d'Afrique.
Le football, John Obi-Mikel, candidat en retour avec le Nigeria pour la CAN 2019.
Oui, le milieu de terrain est candidat à un retour dans l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations du 21 juin au 19 juillet au Caire, a annoncé un membre de l'encadrement des Super Eagles. Mikel s'est entretenu avec le coach Gern Horror en Angleterre et lui a confirmé qu'il sera opérationnel pour la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, a déclaré lundi un officiel de la sélection nigériane à propos de l'ancien joueur de Chelsea de retour cette année en Angleterre à Middlesbrough après 2 ans en Chine. Obi Mikel, âgé de 32 ans avec 85 sélections, n'a plus porté de maillot des Super Eagles depuis le Mondial 2018 l'été dernier en Russie.
L'UEFA devrait recommander l'exclusion de Manchester City de la C1.
Oui, c'est une affirmation du New York Times qui rapporte que l'UEFA devrait recommander l'exclusion de Manchester City de la Ligue des Champions en raison de violation des règles du fair play financier par le club. Selon le quotidien américain, l'UEFA veut exclure pour une saison les doubles champions d'Angleterre en titre de la principale épreuve européenne qui n'ont jamais remporté. La décision de l'UEFA pourrait être annoncée dès cette semaine, indique le journal américain City a réagi, estimant que cette information émane d'individus souhaitant nuire au club.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Abdourahmane Dia. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
La situation sécuritaire s'est beaucoup détériorée ces derniers mois au Burkina Faso. Les attaques armées se sont multipliées dans le nord du pays et fait nouveau, en l'espace de quelques semaines, deux églises ont été la cible d'hommes armés faisant 12 morts. Dans une interview accordée à VOA Afrique, Siméon Sawadogo, le ministre burkinabé de l'administration territoriale, explique que les forces de sécurité ne sont pas intervenues afin d'éviter une hécatombe. Au micro de notre correspondant Lamine Traoré, on écoute le ministre Sawadogo.
Bonjour Siméon Sawadogo.
Bonjour.
Les événements de Dablo se sont déroulés dimanche. Les 6 personnes ont été inhumées lundi. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces événements?
Nous faisons face au Burkina Faso d'attaques terroristes tout azimuts dans cette zone-là, particulièrement dans ces derniers temps, sur donc des églises, sur des mosquées, contre la religion, si on peut ainsi résumer. C'est suite à l'échec tout justement de ces terroristes d'opposer les communautés entre elles, à travers les assassinats des responsables coutumiers, des responsables de personnes ressources, et toutes ces pratiques consistaient à soulever les communautés entre elles. Nous avons pu faire en sorte que ces communautés-là continuent à vivre ensemble. Après cet échec-là, nous avons perçu que les terroristes ont jeté leur dévolu sur la religion maintenant.
Vous êtes en train de dire que les terroristes sont en train de changer de tactique.
Oui, ils sont en train de changer de tactique parce que l'idée consiste à mettre à mal le vivre ensemble entre les communautés.
Monsieur le ministre, quand on voit les événements de Dablo, on se demande comment cela a pu bien se passer parce que les terroristes sont venus une quarantaine et ont fait irruption dans cette église.
C'est ça le problème, c'est ça le terrorisme. Le terroriste, même si vous l'avez un, vous imaginez même quelqu'un qui va dans un marché, il est seul et il tire un fusil. Vous allez voir de la panique que cela va créer. Donc c'est ça le terrorisme. C'est vrai, c'est important, environ une quarantaine de personnes à Dablo qui font éruption dans une église et qui rapidement donc prennent en otage les personnes, les femmes notamment, donc en leur demandant de se convertir, etc. Donc en leur religion à eux, et puis qui assassinent le prêtre et puis 5 personnes. C'est traumatisant. C'est pas que le gouvernement ne fait pas d'efforts. Il faut vous imaginer, si vous avez 40 personnes qui tiennent en laisse une population importante dans une église, c'est quel genre d'intervention vous pouvez faire à ce moment-là?
Oui, les forces de sécurité étaient là, monsieur le ministre.
Non, vous voulez que on ait 6 mois. S'il n'y a pas eu une stratégie qui consistait à faire attention, on pouvait, en les attaquant là-bas, qu'ils fassent un massacre de près de 60 à 100 personnes. Quand les gens leur disent que non, il n'y a pas eu d'intervention, une intervention sert à empêcher quelque chose, mais pas à aggraver une chose. Je pense que sur le plan tactique, sur le plan sécuritaire, les plus chauds pourront revenir sur ce dossier-là, mais je pense que ce qui s'est passé était le moindre mal.
Il y a une gendarmerie, il y a une police, et qu'il n'y a pas eu d'intervention.
Vous voulez qu'ils interviennent dans une église qui a été enfermée, avec des djihadistes à l'intérieur, avec une population nombreuse, vous voulez qu'ils interviennent comment? Sur la question sécuritaire, les spécialistes reviendront là-dessus, mais je pense que ce qui s'est passé là, c'est certainement un comportement qui nous a permis d'éviter une hécatombe.
Merci, Siméon Sawadogo.
Merci.
C'était Siméon Sawadogo, le ministre burkinabé de l'administration territoriale, au micro de Lamine Traoré.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Amnesty International s'inquiète de la répression qui a suivi les élections législatives du 28 avril au Bénin. Une répression, écrit l'organisation dans un communiqué, qui a atteint des proportions inquiétantes avec 4 morts lors des manifestations post-électorales. Écoutez Kine Fatim Diop, chargée de programme Afrique de l'Ouest, Amnesty International. Elle est interrogée par Bagassi Koura.
So, Amnesty a documenté au moins 4 morts par balle depuis le jour des élections législatives qui se sont tenues le 28 avril au Bénin, sans l'opposition. Parmi ces personnes décédées, on compte une mère de famille qui est décédée le 2 mai suite à des blessures par balle, ainsi qu'un jeune garçon âgé de 19 ans, qui était un apprenti soudeur, qui est décédé dans la ville de Kandy le 2 mai également. Ici a pu documenter également le cas de plusieurs blessés. Et pour nous, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les familles donc, qui ont perdu leurs proches face à des obstacles administratifs pour récupérer les corps de leurs victimes.
Oui, à l'époque, l'opposition avait parlé de tirs à balles réelles. Est-ce que c'est aussi votre constat?
Oui, alors les cas que Amnesty International a pu documenter, c'est des personnes qui sont décédées suite à des tirs par balles réelles. Pour nous, c'est vraiment inquiétant. L'usage excessif de la force est vraiment contraire à l'exercice du droit de manifester, tel que reconnu par à la fois la constitution béninoise, mais également le droit international.
Est-ce que vous savez s'il y a des enquêtes en cours?
Alors, on n'a pas encore la réponse officielle des autorités. On sait que le ministre de l'Intérieur avait réagi au niveau d'une radio internationale pour dire qu'il y a eu usage d'armes à feu et que des enquêtes seront menées. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'actes concrets de la part des autorités béninoises dans ce sens-là. Ce que l'on sait, c'est qu'à ce stade-là, des blessés sont inquiétés, des blessés sont harcelés, mais aussi des activistes politiques sont arrêtés. C'est le cas de Habib Ahandassi, un étudiant web activiste qui a été arrêté jeudi dernier et à qui on reproche d'avoir participé à une manifestation non armée, alors que lui-même déclare n'avoir pas participé à cette manifestation du 1er et 2 mai.
Alors, on imagine que ça vous surprend, hein, parce que le Bénin a toujours été présenté comme un exemple démocratique dans la sous-région.
Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes par rapport au Bénin, qui a été montré longtemps comme un exemple en termes de démocratie. Mais ce que nous voyons récemment, c'est vraiment un recul en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de réunion pacifique. Je pense qu'il est temps que les autorités béninoises mettent fin à disons, tout ce processus de nier les droits des citoyens béninois et les laisser manifester de manière pacifique, librement.
Voilà, c'était Kini Fatim Diop, jointe à Dakar.
Le président américain Donald Trump a déclaré que les tarifs douaniers américains sur la Chine rapportaient des milliards de dollars aux États-Unis. Il a ajouté que les mesures de représailles de la Chine ne pouvaient avoir aucun effet sur l'économie américaine. L'escalade de la guerre commerciale américano-chinoise a provoqué une chute des marchés boursiers hier. Retour sur ce feuilleton dans ce reportage de Zlatika Rock. Le récit est de John Lindon.
L'augmentation par la Chine des droits de douane sur plus de 5000 produits américains, y compris la viande, les légumes, les jus de fruits, l'huile, le thé ou encore le café, inquiète les agriculteurs américains. Mais lundi, le président Trump a promis qu'il serait dédommagé.
Nous allons avoir une année prometteuse avec le plus gros achat que la Chine ait jamais réalisé chez nos agriculteurs pour environ 15 milliards de dollars. Nous allons en outre faire quelque chose pour nos agriculteurs afin qu'ils puissent bien s'en tirer. Ils planteront et ils pourront vendre moins cher et gagner les mêmes sommes d'argent jusqu'à ce que tout soit réglé. Nos agriculteurs seront donc très heureux, de même que nos fabricants et notre gouvernement, du fait des dizaines de milliards de dollars que nous récupérons.
Pour Trump, la Chine a beaucoup plus à perdre dans la guerre commerciale avec les États-Unis, car elle exporte plus. Cependant, un analyste chinois indique que les tarifs douaniers feront plus de mal aux États-Unis dans le long terme. Gao Lingun, de l'Académie chinoise des sciences sociales.
À court terme, la Chine et les États-Unis se partageront le coût des tarifs. Mais après 3 à 6 mois, ce sont les détaillants américains et les consommateurs locaux qui en paieront le coût. Selon nos estimations, la part du coût total des droits de douane imputables aux entreprises chinoises ne représente que 10%. Contre 90, voire plus pour les États-Unis.
Selon certaines estimations américaines, les tarifs imposés par Trump sur les produits chinois pourraient amener les Américains à dépenser environ 700 dollars de plus par an sur les biens de consommation. Xin Ding, cofondateur et PDG de GRIX.
Si on analyse en termes de tarifs d'échange, alors quels sont économiques? Car un déficit commercial avec la Chine ou un déficit commercial de 400 milliards de dollars avec la Chine ne signifie pas que les consommateurs n'en bénéficient pas.
De l'avis de Trump, le coût des tarifs douaniers peut être évité en produisant les biens localement ou en les achetant à des pays non tarifaires. Les marchés financiers ont réagi négativement à la guerre tarifaire, mais certains investisseurs se disent peu inquiets. Jerry Brackman, de First American Trust.
De toute évidence, le court terme et même le moyen terme peuvent être pénibles lorsque nous essayons d'ajuster notre économie pour obtenir de meilleurs résultats. Donc je pense que lorsque ces nouvelles font la une des journaux, nous constatons clairement une grande mobilité.
Néanmoins, les économistes s'accordent sur un fait. Une guerre commerciale prolongée ne convient à personne et appelle les deux parties à résoudre l'impasse dans les meilleurs délais. Trump a fait savoir qu'il discuterait du commerce avec le président Xi Jinping lors du prochain sommet du G7. Dans le même temps, a-t-il ajouté, les États-Unis pourraient imposer des droits de douane de 25% sur d'autres produits chinois supplémentaires, évalués à près de 325 milliards de dollars.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Yémen, 4 années de guerre civile dévastatrice pèsent lourdement sur les femmes et les jeunes filles. Beaucoup sont veuves et doivent subvenir seules aux besoins de leur famille. Dans un village reculé du désert, l'ONG américaine International Rescue Committee a créé un centre de formation et d'autonomisation des femmes et des filles vulnérables. Un reportage de Néa Wadekar, récit Raïssa Girondin.
Abdulwazi, mère de 5 filles, a fui les combats dans son village natal de Ras Amran. Et comme de nombreux hommes yéménites ont perdu leur source de revenus, et certains même leur vie, les femmes et les jeunes filles se retrouvent sur un territoire inconnu en tant que principal soutien de la famille. Abdulwazi et ses filles apprennent donc de nouvelles compétences.
Nous sommes en train d'apprendre pour sortir de la pauvreté et aider nos familles. Regardez-moi, mon mari est malade, alors mes filles et moi, nous prenons la relève.
Abdulwasi et ses filles assistent au cours du centre Al-Bourika, créé par l'International Rescue Committee pour autonomiser les femmes yéménites. Les travailleurs sociaux du centre disent qu'environ 50 femmes et jeunes filles sont formées chaque jour où ils passent tout simplement du temps, comme l'explique Fayrouz Yassine.
Dans cette région, elles sont très traditionnelles. Les femmes ne sortent pas parce qu'elles ne veulent pas se mêler aux hommes. Si elles vont dans d'autres endroits pour apprendre, comme Sheikh, Aden ou Carater, elles doivent prendre les transports en commun. Mais elles ont leur mari à la maison qui leur interdit de quitter les lieux.
Pour des femmes comme Abdulwasi, c'est aussi l'occasion de se libérer des normes culturelles conservatrices du Yémen et d'entrer enfin sur le marché du travail.
Avant, les femmes étaient oubliées, mais quand ces organisations sont venues, à cause de la guerre, nous avons pu développer et améliorer nos compétences.
Le centre fournit également des conseils sur les problèmes et les abus liés au genre qui, selon les enquêteurs, ont fortement augmenté avec les combats dans le pays.
Nous avons constaté qu'à cause des pressions auxquelles certains hommes sont confrontés, ils commencent à se livrer à la violence domestique. Les hommes dissipent toute leur colère sur leurs femmes.
Le centre est déjà en train de changer la dynamique entre les sexes dans la communauté. Abdulwasi dit que son mari la soutient dans son projet d'ouvrir un jour son propre atelier de couture et de le gérer avec ses filles.
c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lionel Gaïma a été la mise en onde de la console, Michael Jubinski. Présentation, Morgane Guerriek et Abdourahman Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.